Fabrice Brion, patron de Hike, qui est notre invité ce matin.
Et c'est l'histoire d'un jeune étudiant en ingénierie mécanique qui fait un mémoire et puis qui décide de l'implémenter, de l'appliquer et d'en créer une société. Quelques années plus tard, Hike Air s'est devenu une licorne, c'est-à-dire une jeune société innovante, non cotée, dont la valorisation dépasse 1 milliard de dollars. Une des grandes réussites wallonnes. Il a aussi un discours sur la tech en Europe, la tech aux États-Unis, une Europe donneur de leçons, dit-il, mais pas de solutions dans le contexte mondial. On va voir pourquoi.
Comprendre ce que vous faites. Quelle est la clé de votre succès? Votre société assure le suivi de centaines de milliers de machines industrielles dans le monde, dans ce qu'on appelle la maintenance prédictive. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce que cela veut dire?
Oui, bien sûr. En fait, souvent, quand on parle de maintenance, on voit démonter des boulons, avoir les mains dans la graisse, etc. C'est pas du tout notre métier. Nous, ce qu'on fait, c'est faire en sorte de savoir quand les machines vont casser, pour que nos clients puissent les réparer avant qu'elles ne cassent. Donc, c'est un peu comme votre voiture. Si vous partez en vacances avec, vous avez peut-être peur d'avoir une panne sur la route. Eh bien, nous, on va faire en sorte de vous dire ce qui peut casser pour que votre garagiste puisse le réparer avant de que vous partiez en vacances.
On l'a déjà évoqué, c'est un peu une sorte de Minority Report, comme dans le film, mais pour l'industrie.
Exactement, où il y a quelques années, une série qui s'appelait Person of Interest, moi j'aime bien dire Machine of Interest. Donc nous, on pointe les machines qui peuvent avoir des problèmes à nos clients.
Et vous avez utilisé l'intelligence artificielle un peu avant tout le monde.
Il y a différents types d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est dans l'intelligence artificielle générationnelle. Moi, quand j'ai fait mon mémoire il y a 25 ans, on parlait d'intelligence artificielle prédictive, qui était beaucoup moins grand public que ne l'est la générationnelle aujourd'hui.
Vous êtes en croissance, on évoque votre valorisation à 1 milliard, pourtant c'est la fin de l'industrie. Comment ça se fait que vous réparez des machines alors qu'il y en a de moins en moins et que ça marche?
Ah, je ne pense pas que ça soit la fin de l'industrie, parce que sans l'industrie, on n'aurait rien autour de nous.
En tout cas, elle est en décroissance.
Elle est en décroissance en Europe, effectivement, et je pense que vu le contexte économique mondial, il est temps de réindustrialiser l'Europe, oui.
Et on va en parler, mais où puisez-vous votre croissance? C'est ailleurs en Belgique? C'est aux USA que ça marche, en fait, Hike Air, ou c'est aussi en Belgique?
Oh, les USA, c'est le marché où on a la plus grosse croissance, mais l'Europe reste notre premier marché, notre plus grand marché. Et en fait, la maintenance prédictive, c'est une solution qui est très nouvelle. On n'équipe même pas une machine sur 1000, et donc on a encore des taux de croissance très importants, même en Europe, même si le nombre de machines diminue en Europe.
Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est seulement le début de votre histoire?
En tout cas, c'est le début de l'histoire de la maintenance prédictive et j'espère qu'on en est au début de l'histoire d'Hike Air aussi.
Aux États-Unis, on continue de construire des machines alors qu'en Belgique et en Europe, on en ferme. Comment vous l'expliquez ça?
Il y a un point qui est fondamental, qui sont les coûts, et pas seulement les coûts du travail. On parle souvent du coût du travail en Europe, mais il y a un coût qui est beaucoup plus fondamental et beaucoup plus lié aux décisions politiques, qui est le coût énergétique. On n'est pas du tout compétitif aujourd'hui en termes de coûts énergétiques par rapport à d'autres régions du monde. Et il y a beaucoup d'industries qui décident de se relocaliser en dehors d'Europe à cause de ce problème de coût énergétique.
Votre succès, c'est votre positionnement comme une industrie technologique. Vous êtes une exception en Wallonie, quasiment aussi en Europe, alors que c'est la force pour l'instant des États-Unis. Et vous dites, j'en ai marre de cette Europe donneur de leçons, mais qui ne donne pas de solution. Expliquez-nous.
On a des valeurs en Europe, et ça c'est important, et j'adhère à ces valeurs européennes. Et donner des leçons, ça peut être positif, c'est porter ces valeurs dans le monde. Mais aujourd'hui, on ne sait pas donner les moyens économiques et technologiques de porter ces valeurs. Et au lieu de se dire, on a raté cette révolution et on doit travailler plus dur pour rattraper le train, on continue à donner des leçons, à faire un certain protectionnisme, à réguler les choses pour faire en sorte, finalement, de ralentir notre retard.
Il y a eu une alliance aux États-Unis entre le monde de la tech, la Silicon Valley, et l'administration américaine, le pouvoir, à savoir Donald Trump. Quel regard vous portez sur ça? Ça a été ça la clé du succès?
Je ne pense pas. Moi, je voyage souvent aux États-Unis et je pense qu'on est plus dans une démarche bottom-up que top-down. Ça veut dire que c'est pas Donald Trump qui fait l'Amérique, c'est l'Amérique qui fait Donald Trump.
Et c'est la Silicon Valley qui a fait Trump.
Et c'est peut-être la Silicon Valley qui a fait l'Amérique, en tout cas.
Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'on doit dupliquer cette collision? Qu'en Europe, il doit y aussi avoir une alliance entre le monde de la tech et le pouvoir européen, si en existe un?
C'est d'abord la bonne question, c'est est-ce qu'il existe un pouvoir européen? Et deuxièmement, pour moi, ça fait partie des valeurs européennes d'avoir cette indépendance entre l'économique et le politique. Donc, moi, je ne pense pas qu'il faut répéter cette collusion, mais je pense qu'il est important que les politiques mettent des cadres ambitieux et clairs pour que des entreprises tech se redéveloppent en Europe.
Mais vous dites on a raté cette révolution technologique. Comment on peut rattraper le train, alors?
Comme quand on rate n'importe quoi, quand on rate un examen à l'école, on étudie pour la seconde session. C'est la même chose pour nous. Je pense qu'il est temps d'arrêter de se poser la question. Hier, Bart De Wever m'a remis le prix du manager de l'année. Il disait que l'Europe est un marathonien, c'est-à-dire qu'on met du temps à démarrer, mais qu'ensuite on court longtemps. Je ne suis même pas sûr qu'on ait déjà démarré.
Donc on n'est pas en train de courir, justement?
Je ne suis pas sûr qu'on soit déjà en train de courir.
Et prenons l'échelon belge. Sur 1000 employés, vous en avez 650 en Belgique, donc vous êtes implanté avec une résonance en Belgique. En haut de la fiche des priorités du gouvernement, il n'y a pas la tech. Nulle part, en fait.
Je pense que ça fait aujourd'hui 50 ans. Justement, hier à la cérémonie, on montrait la première couverture du Trends, il y a 50 ans, qui parlait de la crise pétrolière. Et on a cette musique de la crise perpétuelle, des plans d'austérité perpétuels qui tournent en Belgique et dans toute l'Europe. Ce n'est pas ça qui va donner l'envie aux entrepreneurs d'entreprendre, de se développer, aux citoyens d'investir. Donc, je pense qu'il faut sortir de ce cercle vicieux et repartir dans une dynamique plus positive.
Ça veut dire qu'il y a un paradoxe, selon vous, entre ces plans d'austérité et la demande de croissance. Vous dites que c'est un cercle vicieux.
Moi, je pense que les moyens d'un État, c'est l'impôt. Et l'impôt, c'est un pourcentage des revenus, que ce soit les revenus des entreprises, les revenus des travailleurs, etc. Et ça fait 50 ans qu'on ne fait qu'une chose pour essayer d'augmenter les revenus de l'État, c'est d'augmenter le pourcentage d'impôt. Je pense qu'on pourrait essayer, comme dans d'autres régions économiques, d'augmenter les revenus, c'est-à-dire d'avoir de la croissance pour les entreprises et pour les citoyens.
Mais ça veut dire que les plans d'austérité, selon vous, touchent au pouvoir d'achat et vont enrayer l'économie en Belgique?
On est dans une telle situation aujourd'hui qu'on n'a pas le choix de cette austérité. Mais il faut mener les deux en parallèle. Je pense qu'il est important d'avoir des décisions courageuses pour limiter les dépenses, mais aussi des décisions qui permettent de relancer l'économie et de relancer la croissance.
Fabrice Brion, je rappelle, vous êtes le patron d'iCare, société montoise, mais qui est implantée d'ailleurs aussi au nord du pays. Vous vous rappelez souvent que vous êtes une des dernières start-up fédérales, justement, avec une implantation au nord et au sud du pays. Vous avez repoussé votre entrée en bourse à cause du contexte international. Expliquez-nous pourquoi et quel est votre regard sur la suite, vu le début d'année tonitruant de 2026?
Je pense que les investisseurs, surtout européens, sont assez frileux sur la variabilité du contexte économique. On est dans une économie, dans une géopolitique qui bouge très fort, qui bouge tout le temps, qui est imprévisible.
Tout le monde a peur, y compris les investisseurs.
Surtout les investisseurs européens, je dirais. Les investisseurs asiatiques, les investisseurs américains se sont faits à ce nouveau monde qui est très volatile. On ne s'y est pas encore fait en Europe.
Ça veut dire que même dans le monde de la tech, pour l'instant, il y a la peur qui s'installe. Et vous aviez prévu une entrée en bourse en 2025. Vous la prévoyez dans 2 ans, en tout cas en 27. C'est peut-être encore hypothétique vu le contexte, quoi.
On espère que les investisseurs s'habitueront aussi à cette volatilité du monde. Mais oui, effectivement, pour l'instant, en Europe, on a la triple peine, où on a le match à 9 points si on prend le foot. C'est-à-dire qu'on n'a pas les entreprises tech, on n'a pas les emplois à haute valeur ajoutée créés par les entreprises tech. Et on n'a pas les plus-values pour les investisseurs, même tout un chacun, par son compte épargne ou par les quelques actions qu'il peut acheter en bourse de ses entreprises.
Mais comment on se réveille alors?
Ça, c'est pas à moi de le dire.
Mais quels sont vos conseils à donner justement au pouvoir devant vous? Parce que là, vous vous êtes créé aussi sans eux. C'est un peu à l'image d'Odoo, en fait. Vous faites partie de ces licornes qui ont créé un succès en dehors de l'écosystème aussi appuyé par le pouvoir politique. Comment on explique ça?
Moi, je pense que, je le redis, on est dans l'état d'esprit. Et à force de cultiver cet état d'esprit de crise perpétuelle, on ne donne pas l'envie aux entrepreneurs ou...
aussi aux investisseurs de risquer investisseurs et de mettre des sous.
Et à tout un chacun de prendre des risques et de pousser pour une croissance. Je pense qu'il faut un nouveau pacte qui lie la technologie et une technologie en ligne avec nos valeurs européennes, c'est-à-dire aussi respectueuses de l'environnement, l'économie et le social.
Fabrice Brion, peut-être terminer avec la question d'un auditeur, Samuel, qui nous écrit de Liège et qui visiblement a partagé de nombreuses années avec vous dans les moments de jeunesse. Il vous demande quelle part a eu ce parcours dans les moments de jeunesse dans votre management aujourd'hui. Et peut-être sa question la plus intéressante, c'est quel conseil vous pourriez donner au gouvernement sur les politiques de jeunesse aujourd'hui, et peut-être un conseil aux jeunes aussi, tout simplement, qui veulent peut-être réussir.
Merci à Samuel pour la question. Je dirais que j'ai plus appris dans mon métier actuel, dans mon métier de manager, pas dans la partie technologique, mais j'ai plus appris dans les mouvements de jeunesse qu'à l'UNIF. Et j'applique plus de techniques que j'ai apprises dans les mouvements de jeunesse qu'à l'UNIF pour ma gestion quotidienne. Et ce que je donnerais comme conseil aux jeunes, c'est simplement d'oser. On parle toujours de risques. Moi, je pense que le plus important, c'est les conséquences des risques, et donc c'est de prévoir des conséquences plutôt que d'éviter les risques à tout prix.
On a une future licorne qui est en train de se construire en Wallonie. Vous la voyez venir ?
Même plus qu'une, oui.
Ok, bonne espoir.
Bon, voilà de l'espoir ce matin avec Fabrice Brion, patron de iCare, manager de l'année 2025. Merci à vous.
Merci
d'avoir été dans notre studio ce matin. Merci à vous, Thomas Guédisseux.
Belle journée.